Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô voix céleste, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui emplis tout, trésor des biens et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes.
Alors le thème de jour, enfin, qui m'avait été proposé, c'était l'espérance selon Marie. Et en fait, ça m'a questionnée et j'ai senti plutôt que c'était Marie selon l'espérance, parce que Marie a une relation particulière avec l'espérance, et du coup, ben voilà, j'ai essayé de découvrir ça à travers les textes de la parole. Et la première étape, c'était d'abord de rencontrer, ce qui m'est venu, c'était rencontrer Marie au moment de la visitation, quand le chant du Magnificat jaillit dans son cœur avec sa cousine. Et je vous lis juste le début. Luc, au chapitre 1, verset 46. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. » Et un peu plus loin, j'avais pensé à ce texte à cause de ces versets. « Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe, il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles, il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son peuple, se souvenant de sa miséricorde. » Alors, elle parle au passé, là, mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est que dans son chant de joie, tout de suite, elle décrit un monde qui est un monde qui est en espérance, parce qu'il a renversé les puissants de leur trône, c'est encore pas fait. Il comble de bien les affamés. Ça, pour moi, c'était des termes d'espérance. Et quand j'ai creusé plus la question de l'origine de cette espérance, en regardant le texte, en fait, dans la prière, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ça, ça sort là maintenant? Il y a ces mots très importants, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Et du coup, ça m'a renvoyé au moment qui est le moment source de l'espérance. Le moment source de l'espérance, c'est Marie qui s'est sentie regarder. Il a jeté les yeux sur son humble servante. Alors, il y a des traductions qui disent il s'est penché sur son humble servante. Et quand on se penche sur quelqu'un, c'est vrai qu'on le voit mieux. Mais surtout, quand quelqu'un se penche sur vous, vous êtes vu, vous savez que vous êtes vu quelque part. Et donc là, pour moi, il y a un moment, je dirais, de relation à Dieu, d'expérience du mystère pour Marie. C'est ce mystère d'être regardée par Dieu dans sa vie. Alors là, c'est suite à l'Annonciation, quand elle parle de ça. C'est suite à l'Annonciation. Mais en fait, au cœur de l'espérance de Marie, il y a un regard posé sur elle. Elle existe pour quelqu'un. C'est un moment, comment dirais-je, de recréation, mais elle est immaculée, donc elle n'a pas besoin d'être recréée. Mais en même temps, c'est peut-être aussi, c'est un moment fondateur, comme on peut en avoir tous dans nos vies, et c'est des moments de regard, d'existence aux yeux, auprès de Dieu, pour Dieu, qui font que là, elle commence à nous chanter un chant d'espérance. Et elle est non seulement en train de chanter son chant d'espérance, mais c'est un chant d'espérance qui prend en charge ce monde, qui prend en charge sa famille humaine, son peuple. Et donc, c'est particulier. Alors du coup, je me suis dit, en fait, Marie, elle est portée par une capacité à l'espérance, mais cette capacité, elle est pas seulement personnelle. Donc il m'a semblé que l'espérance de Marie, elle est portée par un peuple, par une histoire. Là, elle va accueillir dans sa chair le Verbe de Dieu qui va s'incarner. Mais Marie, elle est réceptrice de toute une tension du peuple d'Israël. Et elle se retourne sur le passé, parce que dans le passé, il est venu en aide, il a renversé les potentats. Et ce passé qu'on regarde, c'est une source d'espérance dans l'avenir. Alors, ce qui me semble important, ça a été de me dire, ben oui, Marie, en fait, elle est dans un courant messianique, elle attend le Messie, dans un peuple qui a toujours eu cette espérance du Messie, qui a toujours relu sa vie. Le peuple hébreu a toujours relu les événements, il les a racontés, et Marie, elle est prise là-dedans. Elle est le fruit de son peuple, et en même temps, c'est son unicité de femme conçue par le Seigneur et rachetée par son Fils. Mais l'espérance, selon Marie, c'est comment l'espérance a modelé comme un potier Marie. Marie, elle est elle-même, et en même temps, elle se reçoit de Dieu et de son peuple. Et là, ça, c'est ce regard qui est quand même à la source de tout, parce que le peuple d'Israël aussi a le sentiment d'avoir été porté sur les ailes de Dieu. Enfin, il y a une relation personnelle qui s'est créée. Alors, voilà, c'était pour ça que je voulais commencer, pas par quelque chose du début historique, mais savoir qu'à la source de l'espérance, il y a un regard comme ça. Et je me disais, un enfant qui n'aurait jamais été regardé pour lui-même, qui n'a pas le sentiment d'avoir été regardé, comment il va pouvoir porter un regard d'espérance sur sa vie? Et nous, chrétiens, est-ce qu'on n'est pas ceux qui avons, comment dire, on a reçu un regard sur nous-mêmes? Il a posé sur toi son regard, et ça nous, on a une mission par rapport au fait qu'on sait qu'on a été vu par Dieu, mais vu dans le sens de l'amour. Et comment ça nous fait naître à une espérance, un regard d'espérance sur les choses, sur les êtres, sur les sociétés, sur les événements, sur notre temps de prière qui dure, qui est parfois sec, mais on a une espérance, ça va durer peut-être longtemps, mais ça va pas durer toute la vie. Ça va changer, ça va avancer. Et donc Marie, au tout début, je l'ai vu un petit peu comme ça. Et puis, j'ai vu l'espérance de Marie. Et à l'Annonciation, là, elle en parle, hein, parce qu'elle dit « il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante ». Son espérance, elle naît de quelque chose qui est auditif. C'est-à-dire qu'elle entend une parole et elle y croit. Elle croit à la parole. Ça peut être impossible à ses yeux, mais l'impossible ne l'empêche pas de croire. Il y a une confiance. Donc, La source de la confiance, on l'aura dans le Magnificat. On saura que c'est un regard d'amour posé sur elle. Donc une filiation qui s'est créée. Mais elle est d'abord, elle a à l'Annonciation, elle a un sentiment d'impossible et elle a un sentiment de pauvreté aussi par rapport à cette je ne connais pas d'homme. C'est pas ce qui était prévu par son peuple. Et donc, c'est une forme d'espérance qui naît de la pauvreté. Parce qu'elle elle peut pas... Les choses, tous les éléments, tous les critères de réalisation ne sont pas remplis. Elle est dans un peuple qui espère ça. Elle va espérer, mais il y a un espace vide où elle se jette dedans, quoi. Elle y va dans la confiance. Et ça, c'est une autre caractéristique de son espérance. Elle part d'un espace où tout n'est pas entre ses mains. Et je pense que ça aussi, c'est la signature de l'action de la Trinité en elle. Parce que je reviens toujours à ça, mais quand le Père engendre le Fils, il se donne tout entier au Fils. Quand le Fils se reçoit du Père, il se reçoit tout entier du Père et il se redonne au Père. Si vous regardez bien, mais dans la Trinité, il y a un espace de pauvreté et il y a un espace de don total. Donc s'il y a du don total, si vous donnez totalement votre vie, il y a un espace au cœur de ça. Et c'est très important. Et en Marie, dans ce moment particulier de l'Annonciation, en elle, il y a cet espace-là. Il y a un espace qui n'est pas rempli, qui n'est pas sûr, qui n'est pas rationnel. Et pourtant, elle croit, elle a un acte, son espérance naît d'une confiance. Et alors ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver à plusieurs moments. L'espérance de Marie, ce type d'espérance, on va le retrouver notamment à Noël, à la Nativité, et Claire va nous en parler, va mettre le doigt dessus, et je trouve que c'est intéressant de voir un petit peu comment elle et François, ils nous font comprendre l'espérance de Marie. Quand Claire nous parle de Marie, à Noël, elle dit, elle enveloppe pas Jésus dans de pauvres petits anges, dans certaines traductions. Mais si on va voir le mot latin, elle dit exactement en latin, elle l'enveloppe pas dans des haillons. Et ça nous révèle quelque chose du mystère de la nativité qu'on pressent parce qu'on sait qu'ils sont partis à toute vitesse, qu'ils n'ont pas trouvé d'hébergement. Mais Marie, ça va jusqu'à l'espérance, elle n'a pu mettre Jésus que dans des vêtements qui peut-être ne le garantissaient pas du froid. Et elle reste, elle est toujours dans l'espérance à ce moment-là de la nativité. Il y a quelque chose du salut qui est en train de se réaliser. Le roi de gloire, le riche, la source de toute richesse, vient au monde. Mais elle n'a pas de quoi. Elle l'enveloppa dans des langes. Bon, on se dit, en plaisantant, elle les a tricotés avant de venir. Si elle l'entoure de haillons, c'est qu'il y a la précarité qui est là. C'est une réalité. Et Claire est sensible à ça. Elle le voit, elle le dit. Elle le redit à ses sœurs. Elle leur dit, ne vous habillez pas avec des vêtements clinquants parce que la mère de Dieu l'a enfantée et l'a entourée de pauvres petits anges. C'est pour que dans la vie concrète, ça se réalise. Mais Claire, elle nous donne un peu une couleur de l'espérance de Marie. Marie, elle est dans l'accueil du Christ, mais en même temps, elle est dans l'accueil de la précarité de cette situation. Et cet accueil, cette confiance pour l'espérance de Marie, moi, je l'ai vue aussi se réaliser à travers les bergers. Parce que elle va être aidée par les bergers, ils vont être aidés tous les trois par les bergers, et ils vont être aidés par les rois. Mais les premiers moments, c'est les bergers qui arrivent
Et qui a, alors on ne sait pas où, s'ils ont amené des cadeaux au début. Peut-être qu'au début, ils ont d'abord vu qu'est-ce qui se passait. Parce que dans le mot de l'évangile, ils disent « Allons voir quelle est la chose ». C'est marqué comme ça, c'est parce qu'il est arrivé quelque chose et ils disent « Allons voir quelle est la chose ». Et en fait, peut-être qu'après ils sont revenus, ils ont dit aux autres ben, « Ils ont besoin de ceci, de cela ». Mais il y a la tradition, je dirais la tradition de tout qu'on a dans Provence, qu'on a ailleurs, c'est que les bergers, ils amènent, ben, ils amènent peut-être du lait, du fromage, ils amènent on ne sait pas quoi. Mais l'espérance de Marie d'accueillir son enfant dans un lieu qu'on ne connaît pas trop. Tiens, voilà Pierre-Jean.
Voilà Pierre-Jean.
Bonjour.
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 Bonjour. T'arrives comme le Messie.
Il n'est pas dans les langes.
Il a déjà bien grandi. Je peux y aller? Juste pour te résumer, Pierre-Jean, c'est qu'on était dans l'espérance selon Marie. Et en fait, juste au début, j'ai dit qu'en écoutant les textes de l'Évangile, je sentais que ce n'était pas tellement l'espérance selon Marie, c'était Marie qui se faisait façonner par l'espérance, en l'occurrence le Christ qui est l'espérance. Voilà. Et là, on était au moment de la nativité, comment Claire d'Assise nous montre à quel point il y a un accueil de la précarité par Marie, que Claire demande à ses sœurs, et parce qu'elle a vu dans son cœur, quoi, dans sa méditation, que le Christ, elle utilise le mot, était enveloppé de pauvres petits langes, traduction soft, et traduction latine, c'est dans des haillons. Donc voilà, elle n'avait pas de quoi assurer la survie de son enfant, finalement, quelque part, et on en était arrivé aux bergers qui eux sont informés, qui viennent et puis qui participent de cette réalisation de la confiance de Marie et de son espérance, parce que quelque part ils ont aidé, on se disait les bergers ont aidé au premier temps, certainement des voisins aussi, et puis plus ça c'est les plus pauvres, et puis il y a aussi les plus riches qui sont arrivés de loin, eux ils étaient aussi pauvres en savoir, et les rois étaient très riches en savoir, c'était des scientifiques, enfin voilà. Et ça m'a touchée de voir que cette espérance, Marie façonnée par l'espérance qui lui est donnée par la grâce finalement, elle est dans cet acte, dans ces moments de confiance, et elle apprend des choses de ce qui vient de vivre, de ce qu'elle vient de vivre, de cet exode pour venir à Bethléem, etc. Et on retrouve la même, comment dire, la même accueil de la précarité au moment de au moment de la fuite en Égypte, parce que là il y a un départ de nuit, il y a un pays étranger, et ils espèrent avec Joseph pouvoir sauver l'enfant, ils espèrent pouvoir le sauver, sinon ils ne seraient pas partis, et dans leur espérance elle n'est pas trahie. Dans les faits, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les apocryphes nous racontent beaucoup de choses extraordinaires, mais toujours est-il qu'ils ont enlevé Jésus à ses futurs bourreaux. Ils ont souffert parce qu'il y a l'espérance pour eux, c'est aussi une espérance souffrante parce que rien n'est sûr et c'est quelque chose qui est dans un climat d'hostilité. Et alors, il y a quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps dans le village où je suis arrivée. Il y a une petite église à côté et on a célébré une messe, c'est itinérant. Et alors, à la fin, alors d'abord, première chose, à droite, il y a un grand tableau où on voit qu'en fait, Jésus n'est pas né à Bethléem, comme tout le monde le pense. Il est né à Villedessous. Parce que tu vois les bergers, le bœuf, l'âne, et tu vois le mont Calm, et tu vois la barre rocheuse, et tu vois le mont Valier. Et donc les gens et les prêtres ont voulu faire comprendre aux gens que bon, Jésus était né à Vic-de-Sceaux. Donc c'est, maintenant, on s'est attesté, on l'a sur le... Mais de l'autre côté, en face, tu vois la fuite en Égypte. Et alors, ce n'est pas du tout l'âne tiré avec Marie sur l'âne, etc. C'est Marie, Joseph, Jésus. Je crois qu'il y a l'âne. Et en fait, c'est un bateau plat d'Égypte sur un fleuve avec, avec les voiles d'Égypte et révélation du Vic-de-Sceaux. Ils sont tirés par les anges. C'est-à-dire que la traversée du Nil n'était pas forcément facile. Et donc, dans leur accueil du mystère, les gens de cette vallée, les artistes, les prêtres, tout ça, ils ont commandé un tableau où on voit qu'ils sont sur la barque, il n'y a pas assez de vent, et c'est les anges qui tirent la barque. Et ça, c'est aussi caractéristique, pourquoi j'en parle, parce que c'est caractéristique de cette espérance de Marie dans la précarité, dans l'hostilité. C'est une espérance souffrante, mais qui est écoutée. Là, il y a les anges qui vont, qui tirent, alors on les voit, qui tirent les cordes. Et ça, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est ton imagination qui voit ça, ou bien, et j'ai regardé, j'ai voulu voir un petit peu dans les différentes, dans les pères de l'Église, grec, latin, dans les liturgies syriaques, ou syro-malabar, qu'est-ce qu'ils nous disaient de ça? Et il faudra que je retrouve le truc, parce que, excusez-moi, mais je ne suis pas tout à fait au point. Il faudra que je vous retrouve un peu un synoptique de tout ça, avec des citations, mais qui sont très, très belles. Et apparaît dans toutes ces citations qu'on regardera tout à l'heure, les notions de l'espérance dans la souffrance. Enfin, la souffrance n'arrête pas l'espérance. Donc, on le retrouve pour la... On le retrouve pour la fuite en Égypte, et aussi pour c'est une autre forme d'espérance qui est décrite par ces différentes traditions là au moment du recouvrement au temple, parce que là au recouvrement au temple c'est aussi une nouvelle épreuve. En fait, ils ont souffert. Pourquoi nous as-tu fait souffrir? Et ils savaient pas où était passé le Christ. C'était pas on va voir, on va le retrouver là, c'est pas un problème. Au départ, c'était ça, puisqu'ils ont pensé qu'il était dans la caravane. Mais l'espérance de Marie, ils l'ont retrouvée au temple. Ça veut dire qu'ils y sont retournés. L'espérance de Marie, elle se fait, elle écoute l'esprit, elle se dit où il peut être et. C'est pas seulement une nouvelle leçon qu'elle va apprendre, ce que son fils va lui dire, il faut que je sois aux affaires de mon père, mais c'est une espérance qui cherche, qui essaye de comprendre, et elle retourne au temple, et c'est là où elle le trouve. Donc, c'est une espérance qui dit les choses comme elles sont. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Pourquoi nous as-tu fait souffrir? Donc c'est une espérance qui a, entre guillemets, confiance dans le dialogue. C'est-à-dire elle ne comprend pas pourquoi il s'est absenté 3 jours, mais elle a confiance dans le dialogue, elle lui pose la question « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Elle lui parle. Elle est pas, elle n'attend pas qu'il donne des comptes ou bien qu'il se taise et elle restera devant le mystère. Elle est dans le dialogue avec lui. Et elle est dans l'expression de ses sentiments et de ses émotions. Cette espérance qu'elle avait de le retrouver, heureusement, elle est réalisée. Mais en même temps, Marie, elle est vraiment dans la confiance que son fils va lui révéler quelque chose de cet événement. Elle lui parle, elle lui dit, elle dialogue et elle a confiance dans sa propre capacité à exprimer ses émotions et ses questions. Et elle a confiance dans la capacité du Fils de Dieu de lui révéler ce qui se passe. Et Jésus, à ce moment-là, il peut lui dire, il faut que je dois être aux affaires de mon Père. Et avec Joseph, on ne peut pas dire, l'Évangile ne nous dit pas qu'ils ont compris. Ils ne nous disent rien. Il nous dit simplement l'Évangile qui vont accompagner l'un et l'autre sa croissance. Jésus était avec eux et il grandissait en taille et en sagesse. Donc la douleur de les avoir perdus, l'espérance de le retrouver, ça les aide à, à comprendre que leur rôle, c'est d'accompagner et de faire croître dans la taille et dans la sagesse. Et c'est à ce moment-là que moi, je me suis posé la question, c'est plutôt venu dans la prière, je pense que Marie, faire grandir Jésus en taille et en sagesse, elle a dû lui parler de ce qui se passait. Ils reviennent à Nazareth, ils y sont. Elle a dû lui parler de ce qui se passait autour d'elle, ce qu'elle voyait, parce que les garçons, ils n'étaient pas associés aux travaux des femmes. Donc, ils ne pouvaient pas savoir qu'une femme qui perd sa pièce, elle fait une grande fête pour la retrouver. Marie commence à lui montrer qu'on regarde la vie. Alors, ce n'est pas marqué dans l'Évangile, peut-être que je me trompe. Mais ça m'est monté au cerveau. Je me dis, mais c'est elle qui a dû lui raconter que quand on perd une pièce, on la retrouve, on fait la fête. C'est elle qui a dû lui dire, tu sais, là, Nathanaël, le berger, ça y est, il a retrouvé sa brebis, mais tu sais ce qu'il a fait? Il a pris un gros risque. Il a quitté les 99. Enfin, j'imaginais que Marie le formait à ça. Et il lui apprenait l'espérance aussi, parce qu'on... On apprend l'espérance, quand on a perdu une pièce, tout n'est pas perdu. On la cherche. Et puis non seulement on l'a cherchée, on a souffert à la cherchant, mais ensuite il en est une fête, il en jaillit une fête. Et quand elle lui explique, il a lâché son troupeau, il est allé les chercher, ça c'est comme ça qu'on apprend l'espérance. On apprend que quand quelque chose ne se passe pas comme il faut, ça avance. Et l'accompagnement de l'espérance pour Marie et Joseph, c'est peut-être des échanges avec Jésus, avec une manière d'être. Et puis aussi une manière de ne pas savoir quel est leur rôle auprès d'un enfant. Marie, elle sait quand même qu'il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Elle le sait, puisqu'elle a entendu de l'ange. Mais comment elle comprend? Qu'est-ce qui se passe là? Il ne se passe rien pendant 30 ans. Donc il y a une espérance qui tient, qui est tenace, sans aucun signe. Pendant 30 ans, ils font leur travail et Marie, elle découvre que peut-être que l'espérance de Dieu, c'est d'être là au quotidien, sans signe, sans résultat. Il se passe le Messie de Dieu qui doit, soi-disant, enfin, qui dans la tradition va libérer Israël de son peuple. 30 ans, il ne se passe rien. Alors, c'est une espérance qui est quand même assez humble et assez patiente. Et en plus, il se passe autre chose, c'est que Marie, elle est consciente à Nazareth qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau société. Donc c'est vrai qu'il y a une occupation, mais ce que Marie sait, elle sait que Nazareth et toute la Galilée, c'est le grenier à blé de Jérusalem. Les grands prêtres, ils ont leur propriété à Jérusalem, et tout le blé, tout le vin part pour la Judée. Par contre, il n'y a aucune reconnaissance. C'est-à-dire que les Galiléens, ils payent les impôts comme tout le monde, et il n'y a pas de... Un Galiléen, c'est pas un pire que tout, mais c'est un Galiléen, c'est un Galiléen. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est né des villes qu'ils ont créées, des brassages de terres occupées suite à l'exil. Et le Galiléen n'a pas de statut dans le pays à l'époque. Et elle le sait, Marie, ça. Ils en ont conscience. Donc là aussi, c'est pareil. C'est une espérance. Elle a un fils qui doit apporter... un fils qui va apporter un royaume. Alors, elle ne sait pas encore quel type de royaume. Mais elle sait qu'il arrive dans un monde de Galilée qui est un monde qui n'a pas, qui n'a aucune place, c'est qui est à part. Ils font pas partie des prêtres, des castes. Ils n'ont pas les castes de prêtres. Ils amènent des provisions quand ils viennent, donc ils ont le droit de célébrer la Pâque la veille. Jésus l'a célébré la Pâque la veille des autres, et les Judéens, ils célébraient la Pâque le lendemain, en fait. Et les Galiléens, ils avaient le droit parce qu'ils arrivaient avec des agneaux, ils arrivaient avec des provisions pour la ville, et c'était fait comme ça. Mais ils étaient, il y avait, entre guillemets, de Nazareth, que peut-il sortir de bon? C'était ça. et espérer que dans ça, dans ce contexte, il allait, les choses s'accomplissaient. Alors, après, en allant un tout petit peu plus loin, je me suis posé la question, comment Marie, elle a vécu le moment où elle est venue avec sa famille trouver Jésus, et au moment où ses disciples lui ont dit « Ta mère et tes frères sont là », et puis Marc raconte, en plus, il pensait qu'il était fou. Comment Marie était avec eux et comment elle vivait, Marie, cet événement-là? Elle se disait « Je viens avec eux parce qu'il est fou ». Elle se disait « Je viens avec eux parce que, justement, on n'en savait rien, en fait ». Et dans la tradition, justement, la tradition des églises nous dit que Marie, elle a toujours gardé espérance en son fils. Et en priant ce texte, moi, ce que je percevais, c'est que Marie espérait dans l'ouverture du cœur de sa famille. Elle a accompagné leur recherche. Elle aurait pu dire, bah, écoutez, tout ça, moi... arrangez-vous avec vous, je sais pas. Moi, j'ai une voisine, elle dit ça tout le temps. Elle dit, je sais pas. Quand il y a un truc, elle dit, bon, non, je sais pas. Non, Marie, elle les a accompagnés. Si elle les accompagne, c'est qu'elle les aime. Et si elle les aime, c'est aussi qu'elle espère que quelque chose va s'ouvrir dans leur esprit. Et en même temps, je pense qu'elle espère aussi que Jésus pourra réaliser sa mission. Elle est comme accompagnatrice de la mission du Christ. Oui, il est pris par un fou, il est pris pour un fou par sa famille. Un peu plus tard, il y a ses disciples qui vont partir, un gros paquet de ses disciples, il a perdu la tête. Au moment où il dit manger, à un moment c'est par rapport à ma chair, il parle de sa chair et dit celui qui mange qui mangera ma chair et boira mon sang, et ben là il y a une rupture. Donc il est là aussi, il est vu comme un fou. Et Marie, elle est présente à ça. Et pour moi, ça m'a questionnée sur l'espérance que Marie met dans ses proches et l'espérance qu'elle met dans son fils. Et son rôle au milieu des deux, c'est une forme d'espérance qui, à mon avis, nous est aussi, on est aussi appelé à ça. Parce qu'il y a des choses qui sont conflictuelles. Aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'on va accompagner avec espérance ceux avec lesquels on n'est pas forcément d'accord? Est-ce qu'on va les accompagner jusqu'à une rencontre du Christ? Est-ce qu'on va chercher ensemble qui est Jésus? Est-ce qu'on aura accompagné, aller jusqu'à, et on parle et on dialogue et on essaie de comprendre qu'est-ce qui se révèle à nous? Enfin, c'est particulier la position de Marie. À ce moment-là, moi, ça m'a vraiment interpellée. Je me dis, mais quelle espérance j'ai dans les autres? Quelle espérance j'ai en Jésus? Est-ce que je déserte le lieu du questionnement? Ou est-ce qu'au contraire, j'accompagne et je vais jusque-là? Et donc ça, c'est une foi, c'est une espérance de Marie qu'après, on verra dans la tradition, là, quand je reprendrai un peu des mots de la liturgie ou des... C'est une espérance de Marie qui est un peu comme une veilleuse. Elle veille, elle veille sur les, entre guillemets, sur les uns et les autres, son espérance. Elle ne faiblit pas. La flamme peut être vaciller, c'est peut-être pas facile, mais elle a une espérance qui est une espérance qui tient. Qui donne de la lumière, une lumière bienveillante sur chacun. Alors ça, c'était un petit peu pour le recouvrement au temps, pour voir un petit peu comment cette espérance, elle peut nous questionner à cet endroit-là. Et après, on va entrer après dans la passion. Et là, si on prend, enfin, j'ai trouvé ça dans dans des textes de spiritualité russe. Marie, elle est... les Russes, ils découvrent... Enfin, les, ouais, puis les Grecs aussi. Ils découvrent que Marie, au pied de la croix, il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la... de l'ordre de la rencontre de la lumière incréée au pied de la croix. C'est-à-dire, il y a une illumination de Marie, c'est ce qu'ils disent. Alors, quand on travaille, quand on se pose la question de ce qui se passe, moi je me dis, au pied de la croix, il y a une destruction totale de la... Moi je m'excuse, je le dis comme ça, après vous n'êtes pas forcément d'accord, hein, mais devant l'horreur, il y a quand même une destruction au niveau de la pensée. C'est la rationalité, elle est complètement éclatée. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Pour une maman, hein, je me situe, pour une mère. Comment une mère peut penser la mort de son fils? Donc on est des êtres humains, on a une raison. Là, pour moi, il y a quelque chose qui est... le glaive qui lui transperce le cœur, il lui transperce l'intelligence aussi. Et il y a la sensibilité... qui est aussi complètement devant ce qui se passe. Il y a un tel niveau de... Mais non, je ne peux pas, parce que je ne pourrais pas aller dans mes textes. Par rapport à la sensibilité, il y a une destruction aussi de la sensibilité. Je ne veux pas dire qu'elle n'en a plus. Je veux dire que là, l'événement peut effondrer la sensibilité. Parce que la douleur est telle que tout éclate. Je suis pauvre en mots, hein, je ne sais pas le dire, mais il y a la raison, la sensibilité et l'amour. Par contre, ça, pour moi, je pense que l'amour, il est resté intact. Parce qu'une maman, on ne peut pas faire éclater son amour. On peut pas, elle va souffrir à cause de l'amour, mais ça ne peut pas être détruit. Et donc, dans la mystique russe, comment ils abordent ce qui se passe en Marie, l'espérance de Marie, elle est dans les larmes. Il y a certainement un effondrement intérieur, mais ils nous transmettent ce message qu'il y a une visite de la lumière incréée à Marie à ce moment-là. Mais c'est carrément, moi quand j'ai lu ça, je le comprends dans la foi, mais je crois que c'est vraiment une révélation qu'ils ont eue. Parce que, alors ils vont comprendre ce moment de manière intérieure, et les pères latins, eux, ils vont être marqués par le fait qu'elle reste droite. Par exemple, Saint Ambroise, il dit Stabat Mater, elle reste droite. Donc là, on voit, pour eux, pour les latins, eux, ce qu'ils perçoivent, c'est une espérance qui est une espérance de force. Elle reste... mais je crois que les deux ont raison. Simplement, les Russes, les Grecs, ils nous révèlent qu'est-ce qui a fait qu'elle est restée droite. Elle est restée droite, si vous vous rappelez, elle était quand même entourée par d'autres personnes. Donc, dans le questionnement, vraiment, elle est peut-être... Enfin, les mystiques, par exemple, Anne-Catherine Emmerich et puis d'autres... Maria Valtorta, ils disent qu'elle s'est évanouie, enfin même dans la tradition, mais elle était portée, elle est restée droite, quoi, quelque part. Et c'est deux manières différentes de voir les choses, mais il se passe quelque chose. Dans les textes orientaux, carrément, elle dit, les textes lui font dire, la liturgie lui fait dire, « Mon fils, je te vois mort sur la croix, mais j'espère en ta résurrection. » Et là, sur tous ces textes-là, eh ben, on sent que ça revient tout le temps, l'espérance. Alors qu'on ne s'attend pas à ça. D'habitude, quand on est face à cet événement de la passion, ce n'est pas forcément nous, les Occidentaux, on ne parle pas beaucoup de l'espérance à ce moment-là. Alors que dans les textes, si j'arrive à les retrouver, parce que je suis tellement mal organisée que voilà, on va y arriver, je vous lirai les phrases qu'ils mettent, mais... ils disent aussi à travers ses larmes, elle espérait. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Bon, je me rends pas compte au niveau du temps. Alors ça, c'est pour la passion. Donc ce flambeau de l'espérance, elle le tient encore, mais dans les larmes et dans un effondrement intérieur et une tenue. Elle tient. Et ensuite, il y a quelques... Parce que comme c'est Marie, on ne dit rien d'elle dans l'Évangile, donc c'est vite fait de faire le tour, hein. Il y a un autre moment où elle apparaît, enfin, dans la liturgie des orientaux, c'est au moment de la résurrection. Comment elle se situe, ils lui font dire des choses aussi. J'ai espéré que tu serais ressuscité et tu es ressuscité. Bon, nous, on ne sait pas, ça, on ne l'a pas dans les évangiles, donc on ne peut pas spéculer dessus. Mais après, quand elle va être au Cénacle avec les disciples, là, on sent qu'il y a une espérance qui prend une autre dimension, c'est-à-dire qu'elle devient ecclésiale. Et Marie, elle est celle qui oriente vers l'attente de l'esprit, et elle a un rôle pivot. En fait, elle a espéré à travers toute la passion, et qu'elle a été exaucée, elle a eu le message de la résurrection de son fils. On ne peut pas élaborer des choses sur si elle l'a vu ou pas vu. Bon, bref, les textes de l'Évangile sont discrets. Mais elle est à nouveau dans un temps d'espérance de quelque chose qui n'est pas réservé à elle, qui n'est même pas réservé aux disciples. Effectivement, ils vont recevoir l'Esprit Saint et ils l'attendent. Et Marie oriente tout ça. Mais ça va être une venue eschatologique, c'est-à-dire que l'Esprit Saint, il inaugure le temps de l'Église, et Marie est là. Et c'est une espérance encore d'une autre forme. C'est une espérance qui est, on pourrait dire, collective, mais non, c'est plus que ça, c'est ecclésiale. Et c'est une espérance qui est cosmo, je ne sais pas comment on dit, parce qu'en fait, c'est la bonne nouvelle de la résurrection qui va pouvoir être annoncée à toute la création. Aux hommes, et voilà. Donc, je sais pas, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, je me suis dit, je vais essayer de les retrouver. Ce qu'on a, alors, voilà, ça y est, on va y arriver. Alors, c'est Ephrem. Saint Ephrem, c'est un Syriaque. Dans cette tradition, Nazareth est le lieu de la gloire cachée. Alors, Marie vit au contact permanent de la divinité voilée sous la normalité humaine. Et dans les hymnes sur l'enfance, au chapitre 21:1, Ephrem écrit « Marie garda l'espérance durant les jours ordinaires ». Donc voilà, c'est un secret pour nous ça, parce que en fait, les jours ordinaires, ils sont ordinaires, il ne se passe rien du tout. C'est toujours le même couloir, c'est toujours la même chambre, c'est toujours la même routine. Ephrem, il écrit « Marie garda l'espérance durant les jours ordinaires. Dans une petite maison, elle veillait sur le toit. » C'est la même hymne. Donc en fait, on peut faire des choses très simples et en même temps veiller sur le toit. La mère de Dieu vit dans un village pauvre, mais son espérance demeure grande. Ça aussi, c'est une forme d'espérance propre à Marie. Donc ça, c'était Nazareth, mais je pense que... Avant, j'avais d'autres choses. Au moment de la perte de Jésus, Ephrem a toujours lui, il écrit pendant 3 jours, l'espérance de Marie fut affligée. Alors nous, on se dit, pendant 3 jours, elle a cherché Jésus. Mais Ephrem nous dit, pendant 3 jours, l'espérance de Marie fut affligée. C'est quand même fort. Hein. Donc, vraiment, ça paraît être une femme, il la voit vraiment sous l'angle de l'espérance. Et quand c'est indiqué, l'espérance de Marie fut affligée, le verbe qui est utilisé, c'est le verbe syriaque « cri », il évoque non seulement la peine, mais la blessure. Donc en fait, le glaive qui perce le cœur de Marie, c'est pas à la passion, c'est à plusieurs autres endroits. Et ensuite, à la fin de cet hymne, où il dit « pendant 3 jours, l'espérance de Marie fut affligée », il ajoute, elle pleurait, elle qui avait enfanté l'espérance. Alors, l'espérance est ici en tension. Celle qui a mis au monde la lumière marche dans les ténèbres au moment de cette perte au temple. Celle qui a mis au monde la lumière marche dans les ténèbres. Mais Ephrem ajoute une phrase essentielle. Pourtant, elle n'abandonna pas l'espérance. Alors, les Grecs, eux, ils ont quelque chose de, je dirais, de plus stoïque, hein, comme les Grecs, ils sont un peu les Spartiates, là. Hein. Ils ont quand même un fond de ça. Alors, Origène, il écrit qu'en fait, là, c'est Marie qui est confrontée au mystère de la volonté du Père. Ils sont plus dans, il y a un mystère, il y a, voilà. Et Origène écrit, l'espérance de la mère fut éprouvée dans la perte. C'est un côté moraliste quelque part, hein. on éprouve par la perte. C'est pas du tout la même manière, la même porte d'entrée. Alors, Grégoire de Nice, lui, il commente la parole de Jésus comme un choc spirituel pour Marie. Quand il lui dit « je devais être aux affaires de mon père », Grégoire de Nice, il entend un choc spirituel pour Marie et il traduit ça, il dit « le cœur fut frappé ». Mais l'espérance demeura. Et Jean Chrysostome, lui, il souligne que la mère accepte ce qu'elle ne comprend pas. Il dit la Vierge crut ce qu'elle ne comprenait pas. Alors, pour les Grecs, cette fidélité dans l'incompréhension est pour eux l'essence de l'espérance. Pour ce qui est de toujours ce même événement, dans la tradition latine, eux, ils voient chez les Latins, donc nos ancêtres, l'espérance éprouvée, mais elle n'est pas brisée. Ambroise écrit au moment de la perte de Jésus, son espérance fut troublée, mais non brisée. Et Augustin, lui, dit, elle le chercha 3 jours comme il reposera 3 jours dans la terre. Elle le chercha 3 jours comme il reposera 3 jours dans la terre. Et il ajoute, la douleur fut là, mais l'espérance ne disparut pas. Cherchant Jésus quand elle semble l'avoir perdu et qui espère sa présence même dans l'absence. L'Église qui est en recherche de Jésus parce que il est là, mais on ne le voit pas de nos yeux et on espère sa présence même dans l'absence. Alors, dans la tradition syro-malabar, le recouvrement au temple, lui, il est perçu comme une quête spirituelle. Marie cherche celui qui est la sagesse incarnée. Donc ça, c'est un chant chaldéen qui dit « Dans son angoisse pour son fils, elle garda l'espérance. » Et ensuite, elle le trouva dans le temple, comme elle avait espéré. Et pour cette tradition, syro-malabar, le temple, ça symbolise le lieu où l'espérance se réalise. Le temple comme lieu où l'espérance se réalise. Alors, pour ce qui est de... Je ne sais pas si on a encore un peu de temps, hein, mais pour ce qui est de la fuite en Égypte, bah, c'est pareil. Chaque tradition a sa manière de voir Marie. Et à chaque fois, il ressort l'espérance. Donc, dans la tradition syriaque, Marie... C'est la porteuse de la vie en fuite. Alors, Ephrem dit, Marie devint la porteuse de l'espérance. Le mot utilisé, la porteuse, la transportante, ça décrit l'image d'une mère qui porte l'espérance alors qu'elle fuit. Donc, on n'est plus dans la psychologie, dans notre psychologie de se dire, ils étaient en difficulté, dans l'insécurité. eux, ils lisent, elle porte l'espérance et elle est en fuite avec l'espérance. Et il rajoute, toujours Éphrem, dans la détresse d'Égypte, elle n'abandonna pas l'espérance. La fuite devient un exode nouveau. Marie, nouvel Israël, garde l'espérance vivante pendant la nuit de l'épreuve. Ça, c'est la vision syriaque. Et la vision grecque, c'est de que l'espérance dans l'obscurité. Pour les pères grecs, la fuite en Égypte incarne une espérance obscurcie, mais non éteinte. Et Cyril d'Alexandrie dit, dans la fuite, l'espérance ne faillit pas. La fuite est un chemin dans la nuit où Marie tient ferme. Voilà. Et Grégoire de Nazianze y rajoute quelque chose d'essentiel. Il augmente, il élargit encore ce moment-là. Pour lui, la fuite en Égypte, dans la fuite en Égypte, la lumière fuit afin d'illuminer ceux qui sont dans les ténèbres. C'est-à-dire que la fuite en Égypte, elle a un sens. Je ne sais pas comment les Égyptiens ont appris des semences pendant le temps de l'exil en Égypte, mais la lumière fuit afin d'illuminer ceux qui sont dans les ténèbres. Et pour les Latins, eux, ce qui les touche, c'est que l'espérance, c'est une espérance confiante au sein de l'exil. Et Ambroise, Saint Ambroise, donc celui qui a converti Saint Augustin, il dit l'espérance de Marie demeura sur le chemin. Et Augustin, donc l'élève de Ambroise, lui, il dit ils ont fui dans la nuit, mais leur espérance fut leur jour. C'est-à-dire que quand on traverse quelque chose de nuit, eh bien, l'espérance, ça peut être une lumière de jour. Et le jour, en fait, c'est l'image du Christ ressuscité. Marie vit déjà dans cette espérance, bien qu'elle ne la voit pas encore. Et dans la tradition syro-malabar, Dieu accompagne l'espérance en exil. Donc à nouveau, c'est un champ de science, c'est pas de qui est. Marie garda l'espérance sur le chemin. Et un autre texte dit, alors c'est joli à lire dans le, ça se traduit en français, on peut le lire, Allah, Melwa, Hawal, Allah, Sabra. Allah, c'est Allah, Dieu. Donc il faut savoir que l'époque, les Libanais, pour eux, Dieu, c'est Allah. Dieu était la plénitude de son espérance. Donc c'est Dieu comme protecteur et on retrouve l'image du tableau où les anges tirent les voiles qui sont plates parce qu'il n'y a pas assez de vent et les anges sont là pour... Donc la fuite en Égypte, elle révèle dans tous ces textes-là une espérance qui est épurée, mature, c'est quelque chose qui s'est nuancé. Marie est persévérante dans la peur. Et son espérance, elle est persévérante dans la peur, et son espérance, c'est la présence de Dieu dans la nuit. Je ne sais pas, peut-être que là, je ne me rends pas compte, on est 20h, presque 30. Est-ce qu'on a jusqu'à quelle heure? C'est peut-être un temps pour des questions. Parce qu'après, j'ai d'autres textes sur les autres moments, mais je ne sais pas si c'est intéressant de.
Ce qui est prévu, c'est échange à partir de 15h45 pour se goûter à 16h45.
Ah bah alors, tu me dis un petit peu. Jusqu'à 15h45, ça fait quoi? Ça fait
un quart d'heure.
Ouais. La nuit. Bon, alors, pour si on remonte à l'Annonciation dans cette différentes traditions, l'espérance de Marie, c'est la réception d'une parole. Alors, on va voir comment ça se traduit. Voilà. Éphrem appelle Marie l'oreille de l'humanité qui entend la bonne nouvelle à l'Annonciation. L'oreille de l'humanité qui entend la bonne nouvelle, c'est dans les hymnes sur la Nativité. Et il dit, Marie est l'oreille de la création qui a reçu l'espérance. Jamais j'ai entendu ça, moi, par rapport à l'Annonciation. L'espérance revient tout le temps. Et le mot espérance, pour Éphrem, ça désigne l'annonce joyeuse, l'évangile lui-même. Et l'espérance, ce que j'avais dit tout à l'heure, elle est auditive. Elle naît du verbe entendu dans la foi. Et alors, il rajoute, Éphrem, au moment où Marie entendit l'ange, l'espérance bénit en elle. L'espérance bénit tout son être, finalement, quelque part. Alors, la bénédiction, elle n'est pas seulement donnée à Marie, elle est donnée en Marie et par Marie pour le monde entier, puisque c'est le Christ. Alors, pour le monde grec, l'Annonciation, c'est plus le moment où Marie entre dans le mystère divin en disant oui à ce qu'elle ne connaît pas encore. Alors, Basile de Césarée écrit « L'espérance a resplendi dans l'humilité de la Vierge. » Jean Chrysostome souligne que le fiat est une victoire de l'espérance sur la peur. Il écrit « Sa réponse ne vient pas de la compréhension, mais de l'espérance. » Et Grégoire de Nice ajoute que Marie devient, je citation, l'espace où Dieu se fait espérance pour l'homme. Marie, l'espace où Dieu se fait espérance pour l'homme. Ça, c'est Grégoire de Nice. Alors, pour les latins, toujours dans la Nonciation, Ambroise, lui, écrit « L'espérance de Marie ne s'appuie pas sur ce qu'elle voit, mais sur ce qui lui est promis. L'espérance de Marie ne s'appuie pas sur ce qu'elle voit, mais sur ce qui lui est promis. » Et Augustin, alors Augustin, c'est, bon j'ai les références, hein, c'est le sermon 291. Alors il écrit, elle crut et espéra ce que la nature refusait. Alors il dit que Augustin, c'est pas uniquement un acte de foi, c'est l'espérance acceptant l'ennemi. Pour la tradition syro-malabar, alors il y a, je l'ai pris parce que ça serait Thomas qui serait allé jusqu'en Inde. Hein. Enfin, c'est pas ça serait, c'est sûr d'ailleurs. Et ils ont des textes anciens attribués à Adaï et Marie. Je suppose que c'est des personnes, je sais pas.
C'est des prières eucharistiques.
C'est des prières eucharistiques. Et alors. Et dans la liturgie de l'Annonciation, on chante, donc rite syro-malabar, une espérance nouvelle descendit sur la fille de David à l'Annonciation. Un autre texte de tradition chaldéenne, c'est l'hymne Mariam al-Boubet Gazoch. Dans la lumière de l'ange, l'espérance s'enflamma à l'Annonciation. Alors, le verbe utilisé, s'enflamma, ça évoque une lumière vive, un embrasement intérieur. Et donc, pour eux, Marie devient foyer d'espérance avant même que le verbe ne s'incarne. Et moi, je me demandais si on ne pouvait pas aussi rapprocher ça de l'expérience orthodoxe russe, et toute la tradition de la révélation de la lumière incarnée, par exemple pour Silouane, pour et tout ça. C'est toute la tradition d'une lumière qui travaille dans l'homme, dans la tradition occidentale. Non, il n'y a pas de transfiguration de la personne, il y a plutôt les stigmates et quelque chose qui touche le corps et tout ça. Donc en fait, les points de convergence, c'est que l'espérance de Marie, c'est réception d'une parole, qui a un consentement libre avant la compréhension. Hein, quand on disait elle espéra devant lui. Et il y a la dimension cosmique, la création entière avant de cette personne. Et Marie aussi, l'Annonciation, c'est une dimension ecclésiale, quoi. Elle devient l'Église qui lui amène. Après. Ces chrétiens, et elle nous révèle aussi dans Ephrem toujours la question de l'espérance. À Bethléem est née l'espérance du monde. Et l'espérance en syriaque, ça signifie le mot sabra, ça signifie à la fois enfantement, espérance et bonne nouvelle. Donc l'évangile, c'est une bonne nouvelle, c'est un enfantement. Et ça rejoint François d'Assis quand dans la règle des ermitages, il dit que chaque frère, il y a un frère qui va devenir une mère pour les autres. Donc enfantez-le. Voilà. Alors, Ephrem dit aussi un éclairage particulièrement symbolique de la nativité. Marie, terre de l'espérance, a enfanté celui qu'il avait créé. Marie, terre de l'espérance. Et c'est une espérance cosmique. La terre, elle enfante son propre créateur. Et pour les Grecs, donc Grégoire de Nazianze, lui, et ses autres frères grecs, pour eux c'est l'espérance qui se manifeste dans l'humble étable. Alors Grégoire de Nazianze écrit: Dieu se fait pauvre afin que j'espère dans sa richesse. À Jean Chrysostome lui dit: dans la grotte, l'espérance s'est tenue debout. La posture debout, elle évoque le courage de Marie, donc dans une situation très précaire, comme tout à l'heure on en a parlé, hein. Mais son espérance ne chancelle pas. Et elle a une réponse. Il y a les bergers, il y a les voisins, il y a les rois. Alors, pour les latins, Ambroise, l'espérance dans l'humilité radicale à Noël. Dans une crèche, dit-il, dans une crèche gît l'espérance et Marie ne s'en trouble pas. Augustin, alors lui, il dit: elle tient un enfant et elle espère le Rédempteur. Alors, pour les Syro-Malabar, là, les amis de l'Inde, la lumière de... Alors, là, c'est un chant ancien de la Kurbana. La lumière de l'espérance est sortie de Bethléem. Et dans la nuit obscure, s'est révélée l'espérance du monde. Alors, cette dimension nocturne est typiquement orientale. La lumière ne supprime pas la nuit, elle la transfigure. Alors, en résumé, pour les Syriaques, Marie, c'est la terre qui enfante l'espérance. et il y a une essence qui touche le cosmos. Pour les Grecs, c'est l'espérance paradoxale, Dieu pauvre, et la grotte toute nue devient sanctuaire. Pour les Latins, c'est plus l'humilité du Verbe, Marie espère le Rédempteur dans l'enfant. Et puis pour les Syro-Malabar, une lumière d'espérance surgit de Bethléem dans la nuit. Donc là, l'espérance de Marie à la nativité, c'est une espérance ferme et douce. L'espérance qui voit Dieu dans la fragilité et la pauvreté. Voilà. On va s'arrêter là, après... Juste quelques mots sur l'espérance par rapport au moment où Marie accompagne son fils, qui est pris pour un fou, et qui accompagne sa famille. Pour revenir à l'épisode où Marie accompagne son fils, accompagne la famille, pour aller trouver le fils qui est pris pour eux. Alors voilà ce que dit Isaac d'Antioche. Quand la parole fut jugée folle par son fils, sa mère ne fut pas ébranlée. Ce qui explique peut-être qu'elle est en capacité d'accompagner. Parce que si tu es ébranlée, bah, tu te sauves ou tu restes avec les autres. Et alors il rajoute, Isaac d'Antioche, son espérance fut pour elle une montagne. Le truc qui tient bien. Voilà. Ouais. Ça, c'est chez les Syriaques. Chez les Grecs, Jean Chrysostome y écrit « Grande fut l'humiliation, que le fils cru par sa mère fut tenu pour insensé par les incrédules. » Donc, il y a un moment d'humiliation. On n'avait pas abordé ça. Ici, il y a de l'humiliation à ce moment-là. Et Grégoire le théologien, alors je ne sais pas si c'est Denis ou Denasian, Grégoire le théologien, bref. La mère demeurait, l'espérance brillait dans l'obscurité. C'est-à-dire le fait qu'elle soit venue, pour lui, la mère demeurait, l'espérance brillait dans l'obscurité. Alors, pour les Grecs, Marie fait partie de l'expérience de la gloire paradoxale du Messie incompris. Alors, les Latins, eux, y voient plutôt que, l'espérance contre l'opinion du monde. Alors, l'espérance, alors c'est Ambroise qui écrit « L'espérance de Marie n'était pas avec la foule, mais avec le Verbe. » Ce qui ne veut pas dire qu'elle condamnait la foule. Elle était là, et elle était, son espérance était là. Il n'y avait pas de jugement. Par contre, Augustin, donc le disciple d'Ambroise, voit dans cet épisode une des formes les plus pures de la foi mariale. Elle crut quand les autres blasphémaient. Elle est là. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'a pas fui. Elle est présente. Et alors, une belle chose aussi, il rajoute, donc toujours Augustin, dans la confusion des autres, son espérance demeura claire. On peut le demander pour nous. Hein. L'espérance est mariale est libre de la pression sociale. Mais elle n'est pas surtout pas jugement. Elle est libre. Voilà.
Et au lieu de la croix.
Alors attends, j'y sais. Ouais, je peux aller voir. Donc là, on est 5 minutes, ça va y arriver. Attends. Ah oui, c'est ça. Alors, pour ce qui est l'espérance de Marie à la Passion, dans la tradition syriaque, c'est l'espérance qui croit et qui pleure. Marie, c'est l'espérance qui pleure et qui croit. Alors, la théologie syriaque, elle se distingue par un réalisme dramatique. Marie ne cache pas sa souffrance. Elle pleure, mais elle pleure en croyante. Alors, Ephrem dit, elle se tint près de la croix et pleura dans l'espérance. Et après, il rajoute, son espérance ne mourut pas avec son fils. Après, là c'est la liturgie chaldéenne, elle dit bienheureuse celle qui se tint sous la croix. La force de Marie est vue comme un miracle de l'espérance. C'est pas un miracle de la foi, c'est un miracle de l'espérance. Alors pour la tradition grecque, Grégoire de Nazianze, c'est pas directement avec la foi, mais ça dit, avec l'espérance, mais ça dit quelque chose. Elle éleva son cœur quand son fils était abaissé. Donc elle éleva son cœur peut-être grâce à l'espérance, justement, quand son fils était abaissé. Elle demeura, elle ne s'enfuit pas, elle ne cria pas. Et il finit, son espérance dépassait toute raison à la croix. Et alors, Ambroise, lui, alors donc les latins, elle se tenait près de la croix, c'est l'espérance qui se tenait là. C'est dans De Institutione Virginis Grandis. Et il rajoute, alors ça c'est Augustin, lui il dit, je suis plus féconde par la foi que par le sein. Donc on n'est pas dans l'espérance directement, mais être plus féconde par la foi. On pourrait rajouter par l'espérance que par le sein. Parce qu'il ajoute après, elle fut plus féconde par la foi que par le sein, elle garda l'espérance lorsque tout semblait perdu. Augustin, serment 250. Bernard de Clairvaux, lui, alors là, on sort des pères de l'Église, hein, on est dans les saints quand même. Et lui, il reprendra cette idée d'Augustin. Elle garda l'espérance lorsque tout semblait perdu. Et il va parler, lui, de la mère martyrisée dans son espérance. L'espérance est tellement difficile à tenir qu'elle est martyrisée dans son espérance. Pour la tradition syro-malabar, la croix, c'est le sanctuaire de l'espérance offerte. C'est un hymne chaldéen du Vendredi Saint qui dit « Sous la croix se tenait la mère de l'espérance. »
L'espérance, cette espérance, elle pense à une résurrection possible.
Oui, ben, tu sais, ils l'ont dit à bout d'un moment, elle s'est dit carrément. À un moment, elle dit mon fils, j'espère en ta résurrection. » La dimension, elle souffre, elle, mais par ses larmes, elle intercédait pour tout le monde. Donc, pour cette tradition, Marie ne souffre pas seulement, elle espère pour le monde. Je n'ai pas là la citation où elle dit mon fils, elle s'adresse à son fils, elle lui dit mon fils, j'espère en ta résurrection, au pied de la croix. Et alors, pour la résurrection, on arrête, c'est Ephrem, dans une hymne pascale, il dit « Son espérance resplendit lorsque son fils se leva. » Là aussi, hop, l'espérance, on la met à la résurrection. Et il finit « Son espérance resplendit lorsque son fils se leva, sa joie remplit son cœur. »
Comment, à ce moment-là, une espérance?
Ça, c'est à la résurrection. Hein.
Oui,
c'est à la résurrection. Et Grégoire de Nice, il est pour la résurrection, il dit « L'espérance sans mensonge fut manifestée. » Et alors, écoutez bien, Jean Damascène, dans l'homélie sur la Dormition, chapitre 1, verset 8, il dit « Le Fils ressuscita l'espérance de sa mère. » des fils ressuscita l'espérance de sa mère. Et aussi, il dit
qu'il a perdu,
Hein?
Ça ne veut pas dire qu'il a perdu,
Ouais. Alors après, il faudrait connaître le grec, hein. Moi je ne connais pas bien. C'est marqué O Uos, ça veut dire le fils, Egeiren, Ten Elpida, Teslechos. Comment? Non, Uios. Egeiren, ça veut dire quoi? Sortir, tu vois, c'est pas vraiment résulté. Egeiren, Ten Elpida, ça veut dire fait sortir la foi. Non, fait sortir l'espérance. Tes metros. Bon, bref. Et puis, aussi, toujours Jean Damasène, il dit dans le silence la joie qu'elle a. Ça veut dire, en fait, ça ne veut pas dire qu'elle était morte, son espérance. Ça veut dire qu'il la remet debout. Enfin, bon. Et dans Ambroise, Ambroise, c'est dit à la résurrection, le Seigneur accomplit l'espérance de sa mère.
En même temps, je peux comprendre que ça... son espérance est vacillée à ce moment-là, comme le Christ a vacillé sur la croix aussi. Donc, elle n'est pas supérieure à son fils. Alors que lui-même devait être aussi dans l'espérance. Plus. Je trouve que c'est du côté de, très pacifique, quoi. Parce qu'il y a quand même une grande souffrance. Dans la... On a l'impression que bon, tout est beau, tout est bon, tout est joli.
Le côté humain ne touche pas beaucoup.
Oui, c'est ça.